Je déclare l'audience ouverte.
Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par l'OPS. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Aujourd'hui, Violette Lazare reçoit Patrick Maisonneuve.
Disparition tragique de Pierre Bérégovoy, l'ancien Premier ministre, est mort cet après-midi à Nevers après s'être tiré une balle dans la tête.
Pierre Bérégovoy, je le vois à ce moment-là, il s'enferme tellement dans cette histoire que je le vois quasiment tous les jours. Quand il est Premier ministre, je le vois à l'heure du déjeuner, et quand il n'est plus Premier ministre, je le vois le matin, et il est de plus en plus mal. Il est atteint au plus profond de lui-même. Je me souviens de balades qu'on pouvait faire dans Paris pour discuter. Il était totalement obsédé. Il me disait même, regardez comment les gens me regardent. Les gens me regardent comme quelqu'un de malhonnête. C'est vrai que sur le plan politique, la polémique est là, et on peut aussi la comprendre, la polémique, parce que finalement, les Français paient les taux d'intérêt, le Premier ministre a une période de rigueur budgétaire. Et il était l'incarnation un peu de cette rigueur budgétaire. C'est vrai que c'est un reproche politique que l'on peut lui faire à ce moment-là, mais il n'y a rien de pénal dans tout ça. Il s'enfonce progressivement dans cette histoire, il me parle du juge, ou du procureur, où il me demande de prendre contact avec le procureur, c'est M. Bott, le procureur du Mans à l'époque. Mais en fait, moi, en tant qu'avocat, je n'ai pas de poursuite judiciaire.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que Pierre Bérégovoy, à cette époque, est attaqué dans la presse, à un moment où la justice, elle, n'a toujours pas ouvert la moindre enquête. Donc il n'y a pas de front judiciaire, il n'y a pas de poursuite. Vous, vous êtes avocat, vous êtes habitué plutôt à défendre quelqu'un devant un tribunal. Donc quelles sont vos marges de manœuvre, en fait? Comment vous pouvez intervenir?
Vous savez, l'avocat, lorsqu'il est... c'est la confidence, ce sont les échanges. Et donc, ces confidences-là, ces échanges qu'on avait le matin, parce qu'il fallait qu'il prépare en plus ses déclarations de patrimoine, mais il avait même peur de sortir. Enfin, il est Premier ministre, il veut faire une déclaration de patrimoine, mais il était, alors qu'il n'y avait pas de problème majeur, il n'avait pas de patrimoine particulier à part l'appartement dont toute la France parlait. Donc, c'est tout ce qu'il avait, Pierre Bérégovoy. Donc, la déclaration de patrimoine, elle n'était pas très compliquée à faire, mais même ça, il souhaitait que j'y sois associé, que je m'en occupe. Mais surtout, c'était pour parler de l'honnêteté, du pourcentage, du fait qu'il se sentait une responsabilité dans l'échec de la gauche aux législatives. Et donc là, on est juste après les élections. Ce qui m'avait frappé aussi, pour revenir quelques jours avant les élections, c'est que, et ça vous montre à quel point il était totalement tétanisé par cette affaire. Il m'avait demandé, on ne sait jamais, m'avait-il dit, on ne sait jamais quoi, je n'en sais rien, le juge Jean-Pierre n'est pas débarqué à Matignon le soir des élections législatives qui vont donner lieu à la deuxième cohabitation. Donc il m'avait demandé d'être présent le soir à Matignon. Alors c'est vrai que c'était un moment parce qu'on savait que la gauche allait perdre énormément de députés. Lui, il trouvait qu'il avait une responsabilité du fait de cette histoire. Ça avait ajouté, en tous les cas, à déjà une gauche qui était très mal en point. Il faut bien se souvenir qu'au moment législatif, le Parti socialiste a été à la limite de pouvoir faire un groupe parlementaire à quelques élus près. Et ce soir-là, je me suis retrouvé à Matignon, où il y avait juste son fils. Il y avait une ministre, alors que normalement, l'usage voulait que plusieurs ministres viennent le soir d'élection législative à Matignon, dans le bureau du Premier ministre. Il était totalement seul. Il y avait une ministre qui était là, mais une seule, qui est même secrétaire d'État d'ailleurs. Et puis son fils et son avocat. Voilà.
Une ambiance épouvantable, le Parti socialiste perd les élections, le Premier ministre Pierre Bérégovoy présente la démission de son gouvernement. Le scandale, lui par contre, il demeure. Alors vous, son avocat, comment vous le retrouvez après son départ de Matignon ?
Dans les 48 heures qui ont suivi, je vais le voir là, à ce moment-là, rue des Bellefeuilles, l'histoire était omniprésente. C'est-à-dire que j'avais beau lui dire à ce moment-là, de toute façon vous savez les juges en général, à partir du moment où vous n'êtes plus au pouvoir, d'ailleurs, l'histoire le vérifiera, puisque le juge Jean-Pierre, puis après Renaud Van Ruymbeek, vont diriger, vont s'orienter vers le parti républicain, les partis de Madelin, Léotard, etc. D'histoires qui ne sont pas encore tout à fait terminées, d'ailleurs. Et puis voilà, et qu'on allait plus s'intéresser à lui, mais ça, il était au fond, effectivement, totalement au fond du gouffre.
On est 15 jours avant sa mort. Il vous dit, eh bien, qu'il veut en finir. Comment vous fait-il cette confidence ?
On est ce matin-là, rue des Bellefeuilles, une fois de plus. On doit préparer quelques documents, mais rien de déterminant sur sa déclaration de patrimoine. Et puis, on va s'installer. Il est assis sur un pouf, donc il est plus bas que moi. Je suis sur une espèce de rocking chair, dans un petit bureau qu'il y a dans son appartement. Il est en bas de moi. En fait. Il me regarde en me disant, vous savez, j'ai pris une décision. Je vais partir très loin et je vous demande de vous occuper de mes enfants et de mes petits-enfants. Si nécessaire en tant qu'avocat, si cela arrive. Je comprends de quoi il me parle à ce moment-là. Parce que partir très loin, ce n'est pas partir à les tranchées, hein, c'est partir très loin, c'est vraiment partir très très loin. J'en informe la famille, même si encore une fois, vous le savez, le secret professionnel, c'est quelque chose de majeur dans notre profession. Mais là, je sens le risque, le danger. Moi, je suis totalement démuni par rapport à ça, tout simplement parce que ce n'est pas mon métier. Je ne suis ni psychologue, ni psychiatre, et qu'il fallait que la situation soit remise entre les mains de médecins. Donc j'en parle à la famille, qui vont réussir à l'amener à l'hôpital militaire, et là il verra effectivement un psychiatre.
Un suivi médical, un suivi psychologique, mais qui va s'avérer insuffisant, Pierre Bérégovoy va se suicider. Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont vous avez appris sa mort ?
Je l'apprends par sa fille, parce que à l'époque, je suis un jeune père, et je rentre probablement, je crois, du parc, et je reçois un coup de téléphone, on n'a pas de portable à l'époque, hein. Et je reçois un coup de téléphone de Lise, qui crie au téléphone d'ailleurs. Son fils, lui, va l'apprendre en rentrant dans son immeuble par la télévision de la gardienne, en passant devant la loge de la gardienne. Donc je vais à ce moment-là chez Lise, dans son appartement. Où c'est assez impressionnant parce que les gens qui savaient que sa fille habitait là, parce que lui venait régulièrement voir sa fille, les gens sont aux fenêtres. Les gens viennent d'apprendre le fait qu'il se soit mis une balle dans la tête. C'est pour ça qu'après, je me suis permis justement de faire quelques mises au point lorsque l'on a revisité cette histoire et que l'on a mis en avant la possible assassinat de Pierre Bérégovoy, c'était pour moi assez insupportable. Là aussi, c'est pas encore une fois posé le problème du secret professionnel parce qu'il existe post-mortem. J'ai fait un choix qui était de me dire qu'il avait choisi sa mort, il avait choisi de mourir à ce moment-là et de cette façon-là, et que donc de développer une histoire d'assassinat, c'était lui voler son dernier choix, c'était lui voler sa dernière liberté. Et par voie de conséquence, et là je reviens à l'avocat, en tant qu'avocat de la défense, eh bien je me devais après sa mort de défendre au moins ce choix-là, ce que j'ai fait, ce que je fais encore aujourd'hui. C'est l'histoire qui m'a énormément marqué. Je vais vous faire une confidence, quand je plaidais d'autres dossiers dans les mois qui ont suivi, il fallait que je me concentre pour ne pas prononcer le nom de Pierre Bérégovoy. tant d'autres procès, parce que c'était une présence quasi journalière. Lorsqu'il y a eu la fin de Matignon à ce moment-là, où il a fait plusieurs tables avec les collaborateurs de Matignon, j'étais invité, et il est venu me parler de nouveau de l'histoire du prêt sans intérêt. Je m'en souviens très bien, d'autant plus qu'il y avait quelque chose d'assez drôle, c'est pas drôle, pas pour elle, il y avait une inspectrice des finances à ma gauche, et donc il est venu me parler en buvant son whisky, mais il crachait les noyaux des olives sur l'inspectrice des finances, donc c'est pour ça que je m'en souviens aussi. Et vous savez, ce sont des histoires aussi où il y a la première fois que je me suis retrouvé et qu'il m'a présenté à son cabinet. Donc il y avait le directeur de cabinet, les conseillers, etc., pour leur dire, voilà, j'ai pris un avocat, j'en connaissais déjà certains, hein, j'ai pris un avocat. Et puis à un moment, un téléphone sonne et je vois tous les collaborateurs, les conseillers qui partent, qui quittent le bureau immédiatement, mais en une fraction de seconde. Et moi, je reste assis, puisque je me demande ce qui leur arrive et ce qu'ils font. C'était le téléphone du président de la République qui l'appelait en direct. Tout le monde partait et quittait la salle, sauf moi. Et d'ailleurs, après, je suis chaque fois resté. C'est pour ça, et je dis ça, c'est pas seulement une anecdote, c'est parce que on a aussi dit et écrit que François Mitterrand l'avait lâché ou l'avait abandonné. Moi, je suis le témoin vivant d'entretiens, de contacts téléphoniques où j'étais en face du Premier ministre, où le président Mitterrand lui apportait son soutien et sa sympathie. J'en étais le témoin direct. Après, on peut écrire ce que l'on veut, mais en tous les cas, voilà ce que j'ai vécu.
Alors on parle de François Mitterrand, qui, lors des obsèques de Pierre Bérégovoy, va s'en prendre très violemment à la presse. On se souvient de sa formule assez terrible quand il dénonce l'honneur d'un homme qui a été livré à des chiens.
Les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République.
Les chiens, c'est les journalistes. Vous, depuis, quel type de relation vous avez gardé avec les journalistes, justement ?
Je dirais que la presse fasse son travail, des premiers ministres, il est mis en cause, que ce soit public. C'est peut-être la répétition quotidienne. Ça donne un côté, effectivement, de mise en état de siège de la personne en question, parce que c'est vraiment matin, midi et soir, comme on dit. Donc c'est peut-être cette répétition qui m'a paru assez violente et qui peut avoir des effets dévastateurs, la preuve. Et c'est valable aussi pour les opposants politiques qui lui posaient les mêmes questions à longueur de questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Il y avait une forme de harcèlement, d'acharnement sur cet homme. Mais ce qui m'a plus, je dirais, conforté dans les points d'interrogation que je peux avoir sur la nature humaine et sur la fiabilité des uns ou des autres, c'était les grands amis journalistes. Ils n'étaient pas très nombreux. Mais je ne donnerai pas leur nom ici, des grands amis journalistes qui, après avoir été très proches du ministre des Finances, très très proches de l'homme politique, étaient les plus acharnés, les plus dénonciateurs. Ça en dit long sur... Le mot ami a un sens pour moi, si vous préférez. Bon, et donc, quand Pierre me disait, mais il ne comprenait pas en me parlant de tel ou tel journaliste, plutôt de la télévision, hein. Mais je donnerai pas d'autres pistes. Il en était malheureux. Il en était malheureux, mais en disant, mais c'était mon ami jusqu'à aujourd'hui. Je dis pas ça parce que le présentateur en question, le commentateur, aurait dû se taire. Mais c'était les mots qu'il utilisait. Il n'avait pas de place pour la présomption d'innocence. Il y a eu un phénomène de surenchère. C'est-à-dire que certains, ce qui arrive dans d'autres histoires, hein, pour éventuellement se dédouaner de quelques proximités ou de quelques liens, deviennent les plus redoutables. Pour envoyer le message quelque part en disant « Regardez comme je suis indépendant de celui que l'on met en cause aujourd'hui et regardez comme je suis intraitable. » Bon, voilà, j'en garde pas un beau souvenir.
Est-ce que, d'une façon plus générale, cette affaire a influé sur votre manière d'exercer votre métier par la suite ?
Immanquablement, parce que quand vous avez vécu ça... Le suicide de celui qui n'a pas d'autre issue. Et donc, quelque part, vous le vivez aussi comme un échec, parce que vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire de mieux? Vous vous posez la question, mais tous les soirs, hein, dans les mois et voire même les années qui suivent, c'est encore une question que je peux me poser aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai pu rater? Qu'est-ce que... Je sais pas, je n'ai pas de réponse. Mais en tous les cas, la question, je me la pose encore aujourd'hui.
Et c'est une question, j'imagine, que vous vous êtes posée quand vous avez assuré la défense du juge Fabrice Burgot. Beaucoup l'ont considéré comme responsable, et unique responsable, du fiasco judiciaire de l'affaire Doutreau. Est-ce que vous avez eu peur pour lui ?
Il y a eu des moments d'inquiétude en ce qui concerne Fabrice Burgot, lorsqu'il naviguait seul dans les rues de Paris et qu'il était devenu quelque part l'ennemi public numéro un. Quand on vient le chercher à l'Assemblée nationale pour l'amener dans la salle devant la commission d'enquête, j'ai totalement le sentiment, puisqu'on est présent en accord avec le président de la commission, mais taisant, et j'ai l'impression d'amener quelqu'un vers un échafaud. Il est encadré par Valigny et par Houillon, et il l'amène, nous on est derrière. J'ai l'impression qu'on va vers le bourreau, ce qui sera d'ailleurs un peu le cas. Un bourreau à multiples têtes. Peut-être que certains étaient aussi attentifs au fait que c'était télévisé, que la clientèle électorale était devant son écran. Voilà, je ne ferai pas de procès d'intention, ni aux uns ni aux autres. Mais ça aussi, c'est plus qu'un point d'interrogation.
Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de l'Obs. Patrick Maisonneuve répondait à Violette Lazare. Un montage signé Cyril Bonnet, une musique de Michaël Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.